Osons la philosophie. Une émission de Françoise Gernot et Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Nous nous retrouvons pour cette seconde émission intitulée Kafka pour une lecture philosophique, point d'interrogation. Et c'est donc bien sûr Françoise. Bonjour Françoise.
Bonjour à toutes et à tous.
Qui s'est lancé dans cette aventure qui lui a demandé beaucoup de lecture et beaucoup d'efforts de synthèse. Vous n'allez pas dire en deux émissions le dixième de ce que vous savez sur Kafka.
Non, mais c'est en cela que l'exercice est aussi passionnant. Bien, alors dans la première émission, donc, j'avais esquissé la personnalité littéraire de Kafka avec toutes ses difficultés qui tenaient à cette situation très incertaine d'un écrivain de langue allemande, d'une minorité juive, dans un contexte, ici, tchèque. Le moins qu'on puisse dire, c'est que cette littérature perce en quelque sorte avec extraordinairement de force, de vitalité, malgré tout. Cette littérature perce une série de difficultés, voire même d'impossibilité, comme il dit. Et c'est cela qui nous rend aussi très touchante, cette vie, une vie qui est presque exclusivement consacrée à l'écriture.
Oui, on a employé le mot survie, hein. L'écriture,
oui, c'est
le
un homme, survie. Bon, je reprends la formule que j'avais déjà employée, c'est un homme qui ne vit pas pour écrire, il écrit pour vivre et peut-être pour survivre, jusqu'au moment où il peut lui arriver de douter de tout et d'avoir envie ou d'avoir la volonté effective de tout brûler.
Oui. Et comment on explique justement
son testament?
Comment on explique cette volonté qu'il avait de tout brûler? Il se sentait illégitime?
Je ne sais pas. Il y a des énigmes. C'est un personnage aussi qui demeure énigmatique. Alors, pourquoi une lecture philosophique avec point d'interrogation? Je disais que nous avions... Nous, lecteurs, nous éprouvions à lire Kafka, qui n'est pas toujours si difficile. Kafka n'est pas un auteur difficile. Hein. Quand on lit son texte, il y a une simplicité dans les mots, dans le vocabulaire, et il y a une fluidité des phrases. Hein. Kafka n'est pas si difficile à lire. Et pourtant, à tous les moments, nous sommes dans un nouvel univers. Alors, ça aussi, ce que je voulais dire, c'est que avec Kafka, c'est un univers nouveau qui s'ouvre, comme c'est le cas pour Proust, puisque je maintiens l'analogie. Il est très peu d'écrivains qui, créent comme ça, je dirais par la force d'une écriture qui, par ailleurs, je dirais, très sobre. Hein, il y a très peu d'écrivains qui offrent une telle vision claire, lucide du monde, voire prophétique. J'en reviendrai sur la question d'une possibilité d'une écriture de type prophétique. Ah, peut-être j'en parle tout de suite. Si on a pu considérer que l'écriture de Kafka était prophétique, c'est en ceci qu'il décelait les symptômes, les indices, les signes avant-coureurs d'un monde qui s'est imposé ultérieurement, en tout cas à nous, Européens. Et c'est vrai qu'on ne peut pas lire le procès sans songer au totalitarisme.
Bien sûr.
Donc, il faut pas oublier non plus cette dimension. Alors, j'hésite à l'appeler prophétique. Kafka est quelqu'un qui aussi...
A senti, a pressenti.
Qui pense par indice. Et qui écrit à partir d'une pensée par indice. Bien. Alors, lire Kafka, l'interpréter, je considère que les philosophes ont excessivement interprété Kafka. Je ne citerai pas de nom. Il y a des interprétations absolument passionnantes, mais qui me paraissent tout de même s'envoler très au-delà du texte de Kafka. Je ne cite pas de nom parce qu'il faudrait faire à ce moment-là une lecture très très précise de ces commentaires. Je ne peux pas le faire. Bien. Pour Kafka, donc, pour Kafka, je crois qu'il s'agisse plus, qu'il s'agit plus de le déchiffrer que de l'interpréter. Alors, c'est à cela que je vous convoque, puisque je vais vous lire le passage le plus commenté de toute l'œuvre de Kafka, qui a fait l'objet d'ailleurs d'une version séparée, mais qui est au cœur, ou en tout cas qui est l'avant-dernier chapitre du procès, le grand roman de Kafka, celui que nous connaissons au moins si nous ne l'avons pas lu par Ouïdir ou film. Par le film, par bien le sûr. Film. Et ce film qui est très très bon. Je vous propose donc de, comme je dis, déchiffrer Kafka, peut-être le décrire, mais en tout cas, peut-être pas l'interpréter. Avant d'entamer la lecture, immédiatement, deux remarques. Le procès qui est publié de manière posthume par Max Brod. Le procès donc commence par une phrase qui dit tout déjà. Alors je vous la donne, l'incipit. Quelqu'un avait bien dû calomnier Joseph K. car un matin, sans qu'il n'ait rien fait de mal, il fut arrêté. D'abord K, Joseph K. Vous voyez bien que le personnage principal, sinon le héros, Joseph K. Alors, la lettre K, c'est un véritable chiffre pour Kafka, puisqu'elle intervient trois fois dans ses trois romans, pour désigner le personnage principal. Alors, je parle de chiffre au sens où Franz Kafka qualifiait avec des volutes, enfin de manière tout à fait arabesque, en arabesque,
la
première lettre de son nom. Alors je reviens. L'incipit, je reviens. Quelqu'un avait bien dû calomnier Joseph K, car un matin, sans qu'il n'ait rien fait de mal, il fut arrêté. La fin, sans rupture. La fin du livre est la suivante. Bon, il est assassiné dans une espèce de lieu improbable. Et voici comment K se ressaisit au moment de son agonie. « Comme un chien, dit-il, comme si c'était la honte qui allait lui survivre. » Pourquoi je lis l'incipit
et la fin ?
Parce que ces phrases, et en tout cas ces deux chapitres, ont été écrits d'abord. Donc Kafka a commencé par le premier chapitre et il l'a fait suivre du dernier chapitre. Donc
il suit on a déjà son une, idée.
Il y a un tour d'une extraordinaire puissance. Il n'a rien fait de mal et il est assassiné et il dit lui-même « je suis comme un chien ». Comme si la honte devait lui survivre. Alors cette thématique de la honte, je la laisse en suspens, elle est très forte chez Kafka. Alors maintenant, ce que je vous propose, c'est ce qui se présente comme une sorte de parabole qui s'intitule « Devant la loi ». Je vous la lis. Après, je vous explique un peu dans quel contexte elle apparaît. Ou plutôt, K, donc, se trouve dans une cathédrale. Dans cette cathédrale, il voit venir à sa rencontre un prêtre. Ce prêtre appartient à ce tribunal informe, abject et tout à fait sans teneur juridique, sans teneur juridique, ou alors avec une teneur juridique tout à fait, encore une fois, improbable. Par exemple, dans le livre du juge, il arrive à K d'arriver à ouvrir le livre du juge, et qu'est-ce qu'il y trouve ? Il y trouve des images porno. Bon, voilà, pour vous dire le style. Bon. Alors, le récit du prêtre. Et c'est un récit d'après un texte. J'y reviendrai.
Donc le prêtre lit, en fait.
Alors le prêtre récite ce qu'il présente d'abord comme un texte qui a été rédigé comme préalable à la loi. Alors voici. Devant la loi, il y a un gardien. Un homme de la campagne vient trouver ce gardien et demande à entrer dans la loi. Mais le gardien lui dit qu'il ne peut pas le laisser entrer maintenant. L'homme réfléchit et demande alors s'il pourra être autorisé à entrer plus tard. Je redouble. C'est possible, dit le gardien, mais pas maintenant. Donc nous sommes dans un échange où un homme de la campagne, c'est-à-dire celui qui ne sait pas grand-chose, mais qui manifestement veut apprendre ce qu'il en est de la loi, interroge le gardien de la loi. Le gardien de la loi, c'est-à-dire un portier qui est commis à la protection de la loi, de l'entrée dans la loi, et c'est ce portier qui interdit au moins
pour l'instant,
la possibilité d'accéder à la loi. Alors nous verrons comment le motif, c'est bien celui d'une loi inaccessible. Je continue. Du fait que la grande porte de la loi est comme toujours ouverte, là aussi on a... et que le gardien se pousse de côté, l'homme se penche pour regarder à l'intérieur. Quand le gardien s'en rend compte, il rit et dit « Si ça t'attire tant que ça, essaie donc d'entrer malgré tout, malgré mon interdiction. » Mais note bien ceci, je suis puissant. Donc, je passe une partie du récitatif, du texte. Le gardien, donc, montre, ou essaie de démontrer à l'homme de la campagne que l'interdit est si terrible que de lieu en lieu, eh bien, l'accessibilité de la loi sera de plus en plus difficile et de mieux en mieux gardée. L'homme de la campagne, lui, réagit en essayant de soudoyer le gardien, et le gardien ne se laisse pas fléchir. Une remarque tout de même de l'homme de la campagne qui objecte. Et il dit ceci. L'homme de la campagne ne s'était pas attendu à ce genre de difficulté. La loi, pense-t-il, est pourtant censée être accessible à tout le monde et de tout temps.
Donc,
objection. Et une objection très, très solide, parce qu'effectivement, s'il y a de la loi, il y a une généralité de l'interdit ou de l'autorisation qui, en tant que telle, ne peut s'adresser qu'à tous et non pas à un seul. Nous verrons que c'est un des ressorts. Justement, ce jeu entre la généralité et la singularité, c'est un des ressorts qui nous permet peut-être d'avancer une petite lueur d'interprétation de ce texte. Voilà, je continue. Après quelques temps, donc, les premières années, l'homme de la campagne, il maudit ce malheureux hasard à haute voix. Plus tard, quand il devient vieux, il se contente de grommeler pour lui-même. Il retombe en enfance, et comme durant les longues années qu'il a passées à étudier le gardien, il a fini par identifier aussi les puces de son col de fourrure, il les prie, elle aussi, de lui venir en l'aide et de fléchir le gardien. Enfin, sa vue baisse, et il ne sait plus si, autour de lui, tout est vraiment sombre, ou si ce sont seulement ses yeux qui le trompent. Mais il distingue bien maintenant dans l'obscurité une brillance, dont la clarté perce par la porte de la loi, sans que rien puisse jamais l'éteindre. Hein, c'est intéressant, là. Il y a une petite lueur, il y a une petite lueur qui filtre malgré tout, comme si l'homme de la campagne n'était pas totalement privé de toute perception aussi fine soit-elle de la loi. Alors, quelle loi ? Je continue. Dès lors, il n'a plus longtemps à vivre. Avant sa mort, toutes les expériences qu'il a faites au cours de ce temps se rassemblent dans sa tête en une seule et unique question, que jusqu'alors, il n'a pas encore posée au gardien. Jusqu'alors. Hein ? J'insiste sur les marques, les marques temporelles. Il l'appelle d'un signe, car il ne parvient plus à redresser son corps qui se fige. Le gardien doit se pencher très bas vers lui, car leur différence de taille s'est nettement modifiée au détriment de l'homme. « Que veux-tu donc encore savoir ?» demande le gardien. « Tu es insatiable. » « Tout le monde, n'est-ce pas ?» Réponse. « Tout le monde, n'est-ce pas, aspire à accéder à la loi ?» dit l'homme. « Comment se fait-il que pendant toutes ces années, personne, à part moi, n'ait demandé entrée ?» Le gardien se rend compte que c'est déjà la fin pour l'homme. Et à ce moment-là, il lui dit la vérité. Et pour atteindre encore son ouïe déliquescente, il lui hurle « Personne d'autre ne pouvait obtenir le droit d'entrer ici, puisque cette porte t'était destinée ou n'était destinée qu'à toi. Maintenant, je m'en vais et je la ferme. » Claque la porte. Alors, que penser ? Thank you.
Sur Radio Alliance Plus, nous venons d'écouter, après la lecture de ce texte très connu sur la loi, enfin des extraits, le concerto de Jana Tchèque, le quatuor à cordes numéro 2, magnifique.
Oui,
et tchèque. Donc, on est bien dans un auteur tchèque, même s'il est de langue allemande. Et comment...
Tchèque,
voilà. Alors, on continue, François, sur ce texte fameux ou sur d'autres...
Alors, ce texte très célèbre a sollicité maintes interprétations. Bon, la plus simple, effectivement, c'est celle de cet individu singulier, homme de la campagne. Alors, l'homme de la campagne, Amaretz, c'est celui qui ne sait pas trop, mais qui l'a ici, à la fois la patience et le sens de la question, et le sens aussi de la remémoration, puisqu'il se remémore à la fin pour poser la question ultime qu'il aurait peut-être dû poser au début. Alors, cette question, qu'est-ce qu'elle fait valoir? Eh bien, elle fait valoir le dilemme de la loi. La loi s'impose à tous. Bon, nous le savons bien. Nous sommes, nous, en tant qu'hommes et citoyens ou citoyennes, structurés par la loi dès l'origine. Et en même temps, la loi n'a de valeur que dans une expérience, une existence singulière. Donc c'est bien ce jeu entre la généralité de la loi et la singularité, c'est bien ce jeu qui à la limite se dénoue très difficilement. Alors maintenant rien n'est dit de la nature de la loi. La nature de la loi est inaccessible. Alors, bon, ça c'est la première hypothèse. Nous apprenons que nous ne pouvons pas accéder à la loi, au mystère de son origine, à l'énigme de son fondement. Hein, souvenez-vous, souvenez-vous donc de Montaigne qui parle de du charme mystique. Enfin, j'oublie à l'instant la phrase exacte.
La phrase exacte, oui.
Le caractère mystique de la loi. Et là, nous le voyons vraiment illustré par cette affaire. Alors maintenant, il est peut-être aussi possible de transgresser la loi. Alors transgresser la loi, c'est la position du pervers, hein, mais c'est aussi la position. Et bon, le kabbaliste ou l'étudiant de la Kabbale, qui est Gershom Scholem, le dit avec beaucoup de justesse, transgresser la loi, c'est ou bien, disait, la position du pervers, ou c'est la position du mystique. Car dans la pensée mystique, et dans la pensée messianique, la fin des temps, c'est bien la fin où la loi, en particulier la loi religieuse juive, la Torah, est suspendu.
Oui, vous m'avez lu un texte sur le Messie qui est absolument extraordinaire, mais bon, c'est pas le moment de le lire, puisque vous voudriez parler justement de cet aspect peut-être moins connu qui sont ces nouvelles animalières.
Oui. Alors, entre-temps, juste après, alors quand même, juste un tout petit mot, cette histoire est donc présentée comme un texte qui précède et peut-être justifie les textes de la loi effective qui est en jeu dans le procès. Et en même temps, ce texte suppose toute une discussion. Hein, il y a le prêtre entame une discussion où il fait valoir avec, d'ailleurs, l'homme de la campagne, avec K, le prêtre fait valoir la position des différents protagonistes, hein, donc l'homme de la campagne et le gardien, avec un luxe de citations dans un sens et dans un autre qui évoque évidemment, bon, et je crois que Kafka s'est beaucoup amusé, le style de l'interrogation ou la présentation des questions talmudiques. Bon, il s'agit manifestement, il y en a trois pages, c'est très drôle à lire. Enfin, moi je m'amuse beaucoup parce que j'ai connu ce monde de jeunes gens qui pratiquaient le Talmud. Ça me laissait totalement, j'étais pantoise à l'époque, mais j'ai toujours trouvé ça tout à fait passionnant. Bon, fermons la parenthèse. Alors, ce que je voulais dire aussi, c'est que bon, la lecture du procès est austère, mais si j'avais une recommandation à faire, ce serait de lire. Alors, ils sont difficilement accessibles, les textes, alors, j'oublie la métamorphose, mais des textes dans lesquels les animaux jouent le rôle essentiel. Alors, je crois l'avoir dit dans le premier passage, hein. Bon, d'une part, les animaux se transforment, se métamorphosent en sujets pensants, agissant et en sujet de la qui raconte une histoire, en sujet narrateur, comme dans un texte beaucoup plus célèbre, Métamorphose, un homme se métamorphose en insecte abject. Voilà. Bon, les animaux dont nous parle Kafka dans ses récits animaliers sont des animaux terriens, hein, des animaux humbles, des animaux souvent méprisés. Bon, j'ai pas le temps de faire le détail, je vais simplement vous lire un passage, j'en avais parlé, du long récit non publié qui s'appelle « Les recherches d'un chien ». Les recherches d'un chien, c'est un titre d'emprunt, n'est-ce pas ? Bon, il s'agit d'un chien, qui justement assume une subjectivité, une intériorité, je dirais de style humain. Tout se passe comme si dans les métamorphoses de Kafka, au pluriel, les métamorphoses, il y avait toujours passage de l'humain à l'animalité, de l'animalité à l'humain, avec, je dirais, une attention portée à, avec tendresse, je trouve, avec tendresse au monde animal. Je précise aussi qu'il ne s'agit pas d'allégorie, et qu'il ne s'agit pas de fable au sens des fables de La Fontaine. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, comme toujours, il n'y a pas de leçon explicite, il n'y a jamais chez Kafka, c'est pour ça que les philosophes s'en donnent à cœur joie, parce que ça manque, et eux essaient de remplir la case vide. Hein. Il n'y a pas chez Kafka de discours édifiant ou de traduction même en termes clairs, je dirais, de ces paraboles. Ce sont des paraboles qui sont souvent inachevées, mais qui sont en suspens de lecture, d'analyse, de déchiffrage. Pourquoi j'ai employé le mot déchiffrage. Voilà, alors, dans les recherches d'un chien, c'est un chien qui parle, c'est un chien qui non seulement est un sujet, mais, comme je dirais, un sujet narrateur. Et puis, il raconte une histoire quand il était jeune. Voici. Le chien arrive, le jeune chien, tout jeune, tout frétillant, arrive en un endroit. Et voilà ce qu'il dit. Je m'arrêtais soudain avec le sentiment d'être ici au bon endroit. Je levais les yeux, c'était une journée lumineuse, juste un peu brumeuse, qui commençait là. Je saluais le matin par des sons confus et c'est alors que, comme si je les avais fait apparaître, que sept chiens surgirent à la lumière, sortis de quelque obscurité et faisant entendre un vacarme épouvantable comme je n'en avais jamais entendu. Si je n'avais pas vu distinctement que c'était des chiens, et qu'ils étaient eux-mêmes à l'origine de ce bruit, bien que je ne pusse comprendre de quelle manière ils le produisaient, je me serais certainement enfuie et je restais là. À l'époque, je ne savais encore rien, presque rien, de la musicalité conférée à la seule espèce caline. Elle avait échappé à ma vigilance qui commençait seulement à se développer. Un peu plus loin. C'est seulement par des allusions qu'on avait tenté de me rendre sensible à elle, à la musique. Alors maintenant, deux points. Ces sept grands artistes musiciens, les chiens, artistes musiciens, étaient d'autant plus surprenants et véritablement renversants pour moi. Ils ne parlaient pas, ils ne chantaient pas, ils se taisaient généralement presque avec une certaine obstination. Mais comme par magie, ils faisaient surgir la musique de l'espace vide. Tout était musique. La manière dont ils levaient et posaient leurs pattes, certaines façons qu'ils avaient de tourner la tête, les moments où ils couraient et tous ceux où ils étaient immobiles, les positions qu'ils prenaient les uns par rapport aux autres, les figures aux allures de ronde qu'ils réalisaient ensemble, par exemple, quand l'un posait ses pattes antérieures sur le dos de l'autre, etc. Eh bien, tout cela était musique. Ce que je veux montrer, cette grande nouvelle, hein, qui est absolument pour moi fascinante, qui raconte l'histoire d'un chien qui est tout de même en rupture avec sa communauté, et là, évidemment, la transposition de l'inconfort de Kafka par rapport à sa situation de juif en pays étranger, finalement, cette projection est très très lisible. Le chien en question, nous voyons aussi comment il décrit, parce qu'il est le narrateur, il décrit ses impressions, pas simplement ses pensées, parce qu'à la fin il se livre à des recherches très systématiques, mais il décrit ses impressions et là nous sommes dans un monde merveilleux. Ce que je voulais essayer de montrer aussi, c'est que l'œuvre de Kafka ne présentait pas forcément des situations, je dirais, à la limite de culpabilité sordide, mais il y a aussi dans l'œuvre de Kafka des moments de grâce. Et ici, ce merveilleux des sept chiens musiciens, moi, ça me fait rêver. Alors j'aimerais que vous rêviez aussi, et pas seulement, c'est pas seulement traumatisant, la lecture de Kafka, que vous rêviez aussi grâce à Kafka.
À Kafka. Eh bien, écoutez, on n'a plus qu'une chose à faire, c'est à lire ou relire Kafka.
Oui, alors le petit problème, c'est que ces récits animaliers sont dans des textes assez difficiles d'accès.
Merci beaucoup, Françoise,
et
à bientôt pour un autre sujet. Merci à vous.
Merci.